France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir à tous. La fin du monde et la fin du mois, c'est comme cela que l'on aurait pu intituler notre émission ce soir. Fin du monde et fin du mois, parce que les deux sujets s'entrecroisent, se télescopent dans l'actualité. La fin du monde, la grande peur climatique, le sujet est au cœur de la COP24 qui débute à Katowice, en Pologne. Et puis, ces fins de mois difficiles pour de nombreux Français qui ont enfilé les gilets jaunes depuis deux semaines maintenant. Peut-on concilier les deux? Comment faire pour sortir de la crise? Comment rester vert sans fâcher les gilets jaunes? Le gouvernement doit-il lever le pied sur la fiscalité écologique? On va débattre de tout cela. Mais laissez-moi d'abord vous présenter nos informés du dimanche soir. Jean-Baptiste Marteau, bonsoir.
Bonsoir.
Du service politique de France Télévisions. Brigitte Boucher, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à LCP. Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonsoir à vous.
Bonsoir Olivier.
Et Hervé Kempf, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de Report Terre 2RE, site d'actualité qui se revendique comme le quotidien de l'écologie. Allez, la maison brûle et on n'a plus de quoi de payer le chauffage. C'est parti pour une heure de débat. Ça fait finalement deux semaines maintenant, deux semaines que l'on les observe, ces gilets jaunes, que l'on essaye de les définir, d'en faire des portraits robots. Et c'est pas simple, hein. Des ruraux, mais pas seulement. Des classes moyennes inférieures, mais pas seulement. Des partisans de Marine Le Pen, mais pas seulement. Des partisans de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement. Des gens hostiles à l'écologie, pas sûr. Écoutez Nicolas Hulot, c'était il y a quelques jours sur France Télé.
Je me serais bien passé, et la France se serait bien passée, de cette confrontation qui effectivement oppose l'écologie au social, alors que ma volonté à moi, c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable.
Voilà, cette crise était évitable. Le mouvement des Gilets jaunes est-il, à votre avis, indifférent aux problématiques environnementales, Hervé Kempf?
Non, absolument pas. Et ce qui est très clair, c'est qu'il y a un refus de la taxe carbone, mais qui a évolué très rapidement dans un refus de l'injustice fiscale. C'est-à-dire que les gens en France, les Françaises et les Français comprennent que on augmente la taxe carbone, mais qu'elle n'est pas payée également, et que dans le même temps, l'ISF, c'est-à-dire l'impôt sur les riches, est diminué, que le CICE, c'est-à-dire une subvention aux entreprises, est distribuée très largement, que ceux qui prennent l'avion, et ce sont les plus riches, ne payent pas une taxe sur le gasoil ou l'essence ou le carburant. Donc je crois que...
Ah bah quand c'est on prend l'avion, on paye des taxes quand même.
Ça n'est pas taxé, il n'y a pas de taxe carbone, il n'y a pas de taxe sur le kérosène comme il y en a sur le plein que vous et moi on va faire tous les jours. Donc voilà, je crois que c'est une révolte contre l'injustice fiscale et tous les reportages que les uns et les autres on peut faire dans nos médias, si on va discuter avec les gens, on sent que c'est pas un rejet de l'écologie, mais c'est un rejet de l'injustice.
Pas de rejet de l'écologie, Jean-Baptiste Marteau, vous êtes tout à fait sûr?
En tout cas, l'écologie punitive, si. Moi, quand j'ai été sur le terrain, notamment dans l'Aisne et en Seine-et-Marne, j'ai senti que ce côté l'écologie, mais en payant des taxes, c'était plus supportable. En tout cas, une grande partie des gens ne l'acceptaient pas. Peut-être en grande partie parce que ça n'a pas été suffisamment expliqué. Mais j'avais un ministre cette semaine qui m'expliquait que dès le début, on aurait dû cliver, me dit-il, sur cette question de la taxe carbone. C'est-à-dire d'expliquer clairement que oui, effectivement, on va augmenter les taxes sur le gasoil, mais ça va servir à ça. Ça va servir à telle et telle chose. Et on l'a peut-être pas expliqué par peur du risque.
Mais pouvait-on vraiment le dire?
C'est vrai que c'est très, très compliqué. Hein.
C'est compliqué.
Et, et donc la solution qui a été plutôt celle de mettre la taxe et puis d'attendre, on verra bien ce que ça va donner. Nicolas Hulot n'était pas particulièrement monté au créneau à l'époque. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec cette crise qui a été montée en épingle, qui a pris des proportions totalement hallucinantes ce week-end. Et aujourd'hui, on est quand même bien au-delà de cette crise écologique due à la seule taxe au gasoil.
Brigitte Boucher, injustice fiscale ou injustice environnementale?
Je ne crois pas que les gilets jaunes soient hostiles finalement à la taxe carbone en particulier. Ils ont surtout un gros problème de pouvoir d'achat. Donc ils sont hostiles à une taxe, à trop de taxes finalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils ont réalisé finalement que cette taxe carbone, elle n'allait pas forcément à la transition écologique. Et ils ont eu ce sentiment de tromperie que finalement, finalement, ça n'allait pas forcément à l'écologie verte et qu'ils allaient devoir finalement, avec cet argent-là, rembourser un certain nombre de dépenses de l'État et qu'elle était finalement détournée de son objectif principal.
Ils se faisaient filouter, finalement.
Voilà, c'est un peu ce sentiment de tromperie qui, en fait, les a gênés. Et puis, on est aussi face à une classe moyenne qui se sent glissée vers une sorte de déclassement, une classe moyenne qui n'a pas bénéficié finalement de toutes les aides sociales comme ceux qui sont davantage modestes et qui, à côté de ça, a vu le plafonnement du quotient familial ou la refiscalisation des heures supplémentaires et qui, du coup, tout simplement, n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Bruno Dive, est-ce que il n'y a pas un sentiment tout de même que l'environnement, aujourd'hui, ça reste un sujet de riches?
Oui, alors je pense que ça c'est devenu quand même une préoccupation. Non, c'est devenu une préoccupation un peu plus large. Non, mais c'est pas si simple quand même. C'est je pense pas que contrairement à mes confrères et consoeurs que ce soit l'environnement soit une préoccupation majeure des Gilets jaunes. Alors j'ai bien observé que dans beaucoup de déclarations de leurs porte-parole, il y avait toujours un préambule en disant on est bien conscient du réchauffement climatique, on sait qu'il faut faire quelque chose.
C'est pas leur préoccupation première au quotidien.
Mais certainement pas leur préoccupation. Première, sinon peut-être.
Est-ce qu'ils sont pas stigmatisés par les écologistes?
Ils viendraient manifester la semaine prochaine. Il y a une manifestation qui est déjà annoncée. C'est la marche verte pour le climat. Donc, s'ils sont absolument conscients de concernés par le problème, ils peuvent peut-être envoyer une délégation. On verra. Mais je pense pas qu'ils soient très intéressés par cette manifestation là. Mais là où je rejoins mes amis, enfin mes camarades de studio, c'est pour dire que, en fait, je crois que la taxe carbone, c'est l'expression d'un ras-le-bol fiscal. Qui couvait depuis longtemps. Ça a été la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Mais on sent bien que depuis Pierre Moscovici en avait parlé en 2013, quand il y a eu les hausses d'impôts de François Hollande, ce qui rend d'ailleurs cette venue de François Hollande sur les barrages des Gilets jaunes quand même assez
savoureuse,
oui, enfin assez scandaleuse. Enfin, moi je dirais, mais bon, c'est un autre sujet. C'est quelque chose qui vient de loin et qui ne concerne pas d'ailleurs que les Gilets jaunes, mais beaucoup plus de monde en France, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont le soutien encore, on va voir ce que ça va donner cette semaine, encore d'une grande partie de la population.
Alors on va voir si les Français continuent à soutenir les Gilets jaunes, on va continuer à en débattre, mais d'abord il est 20h10, et sur 20h10, c'est l'heure de l'info avec Camille Revel.
Une violence extrême et inédite contre les forces de l'ordre, des jets de marteau ou des billes en acier. Les mots du préfet de police Michel Delpuech ce soir au lendemain de la journée de manifestation des Gilets jaunes à Paris. Il assure que la préfecture n'a eu aucun interlocuteur concernant l'organisation de la manifestation malgré des tentatives. 249 feux recensés dans la capitale, 378 personnes placées en garde à vue, dont 33 mineurs. Après ces violences, plusieurs syndicats de police réclament le rétablissement de l'état d'urgence. Il y a d'autres solutions, répond la garde des Sony. Nicole Belloubet. Édouard Philippe, lui, va recevoir des représentants des Gilets jaunes et les chefs des partis représentés au Parlement. Réaction du premier secrétaire du Parti communiste, Fabien Roussel. Enfin, il était temps. Le patron du PS, Olivier Faure, lui dit se féliciter que le gouvernement commence à prendre la mesure de ce qui se passe dans le pays. Ce soir, l'autoroute A6 a rouvert partiellement au niveau du péage de Lima, dans le Rhône, mais seulement dans le sens Lyon-Paris. Elle était coupée dans les deux sens depuis hier, après une action d'une centaine de Gilets jaunes. Plus de 65 000 manifestants dans les rues de Bruxelles, aujourd'hui pour une marche pour le climat, alors que la COP24 vient de s'ouvrir en Pologne. Rennes coule à pic en Ligue 1 de football. Les Rennes ont battu 4-1 par Strasbourg. Marseille se contente d'un nul, 0 partout face à Reims.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Défense de l'environnement contre défense du pouvoir d'achat. C'est un peu le match du moment. Alors qu'hier, les Gilets jaunes étaient dans les rues pour réclamer abandon sur la surtaxation du gasoil et que débute la COP24, grande réunion sur le climat. Sommes-nous à la croisée des chemins? Eh bien, c'est en tout cas ce que pense Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle était l'invitée de France Info à la mi-journée.
Là, je crois qu'on est exactement au point de la difficulté de la transition écologique. C'est qu'on est en ce moment à un moment d'histoire, parce qu'on est entre deux mondes. Oui, nous avons toute une partie du système qui est bloquée quelque part dans l'ancien monde, qui est bloquée dans un monde où on pouvait comme ça dépenser de l'argent ou même tolérer que beaucoup d'argent soit investi dans des projets qui sont profondément mauvais pour la planète. Et donc aujourd'hui, on est à ce point de frottement. On est à ce frottement-là dans les institutions, entre responsables politiques, et entre Français.
On boit une poisson, hein. Hervé Kempf, on est entre deux mondes. Vous entendez ce que disait la secrétaire d'État, finalement, la technostructure et beaucoup de Français doutent encore du bien fondé de la transition écologique.
Non, je crois qu'il faut sortir de ça. Au contraire, la popularité de Nicolas Hulot qu'on a entendu tout à l'heure est un des signes de plus que la très grande majorité des Françaises et des Français sont tout à fait convaincu de la question écologique. Ce qui devient de plus en plus insupportable, c'est la conscience de plus en plus claire que non seulement l'écologie, c'est pas l'affaire des riches, mais que les riches s'en fichent. Je vous donne simplement quelques statistiques qui sont appuyées sur des travaux d'économistes comme Thomas Piketty et Lucas Chancel. 10% des plus riches dans le monde comptent pour 45% des émissions mondiales. Les 1% les plus riches en France émettent 200 tonnes de CO2 par habitant. Pourquoi? La moyenne française, c'est 6 tonnes. Pourquoi? Parce qu'ils voyagent beaucoup en avion, ils ont des grosses voitures, ils ont des bateaux, ils ont plusieurs maisons, etc. Donc c'est ça qui est en cause. C'est pas le refus de l'écologie, c'est le fait que on ne peut pas avancer. Et Nicolas Hulot, qui est un très bon pédagogue, le disait avec ses mots, on ne peut pas faire l'écologie s'il n'y a pas la justice sociale. Qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement dont Madame Poisson fait partie? C'est que c'est pas un blocage, c'est pas la technostructure, c'est que c'est le gouvernement des riches qui baisse l'impôt sur le capital, qui subventionne les entreprises, etc. Vous le savez très bien.
Tout le monde a le droit à la parole, évidemment, sur le plateau des informés. Et Jean-Baptiste Marteau, est-ce que la France n'en fait pas trop en matière environnementale? Je m'explique, c'est une petite musique qu'on peut entendre en disant, finalement, la France est responsable au niveau mondial de quoi? De 1,5% des émissions de gaz à effet de serre. On va faire énormément d'efforts pour essayer de diminuer tout cela de 5%. Pourquoi nous et pas les autres, Bruno Dive?
Mais c'est une question qu'effectivement, une petite musique qu'on peut entendre et on peut le comprendre quand on va voir des gens sur le terrain qui nous disent, vous êtes bien gentil avec votre idée de bobo, je l'ai entendu souvent sur le terrain encore cette semaine, moi j'arrive pas à finir mon fin de mois, je suis dans le rouge dès le 15 avec un salaire de 1 200 € et 3 enfants, etc. Donc forcément, quand vous parlez à ces gens-là, vous leur parlez d'écologie, de changer votre chaudière, votre voiture, de mieux isoler votre maison, tandis ils vous répondent, vous êtes bien gentil, mais vous vivez sur une planète différente de la mienne. C'est sûr qu'à Paris, dans des milieux qui sont quand même plus sensibles à ces questions-là, c'est un message qui passe plus. Et on arrive beaucoup plus à parler d'écologie à Paris ou dans des grandes villes où les gens, effectivement, n'ont pas besoin de voiture et peuvent se déplacer en transport en commun plutôt qu'à la campagne. Maintenant, oui, si on prend les chiffres au niveau mondial, la France, c'est pas le plus gros pollueur et de loin. Malgré tout, on ne respecte pas encore tous nos engagements pris lors de la COP21.
Hervé Kempf, vous l'entendez ce que dit Jean-Baptiste Marteau?
J'entends
cette accusation des bobos, vous en faites partie, hein?
Mais pas du tout, pas du tout. Nous, on a des correspondants partout, on va sur le terrain, donc non, on n'est pas bobos, et c'est pas parce qu'on fait du vélo qu'on est bobos. Et on a des revenus, et même les journalistes sont peut-être payés que moins bien que dans d'autres rédactions, donc peut-être. on est très Mais revenons sur l'essentiel. C'est que, par exemple, c'est beaucoup des gilets jaunes, on le sait, c'est quand même beaucoup des régions du rural,
de
des petites villes, des bourgs qui ont du mal. Qu'est-ce qui se passe? Les lignes de chemin de fer diminuent. On ferme des maternités, on ferme des tribunaux, on ferme des trésoreries des impôts. On rend de plus en plus difficile la vie quotidienne des gens qui ne peuvent plus dans les petites villes, dans les villages, dans les bourgs, dans cette France, on appelle de la banane, vous savez, toute cette partie qui traverse la France du sud-ouest au
sud-est.
La diagonale du vide, l'Auvergne, elle est pas vide, il y a des gens, c'est des humains, ils sont tout à fait, ils sont un peu là aujourd'hui, et ils disent, mais comment on peut faire? On a besoin de notre voiture. On voudrait bien faire de l'écologie une fois de plus, mais on a besoin de notre voiture. Mais si je dois aller à la maternité ou à l'hôpital ou au centre des impôts ou je ne sais pas où et qu'il faut faire à 100 km parce qu'on a fermé le centre qui était dans ma petite ville, comment on fait? Donc c'est contre ça que les gens protestent. Et par exemple, on disait, est-ce que les Français font, la France fait plus ou moins? Vous l'avez rappelé, vous avez tout à fait raison. Les émissions de CO2 de la France ont augmenté de 3%. En 2017. Et on continue à faire des autoroutes. Le grand contournement ouest de Strasbourg, l'autoroute Toulouse-Castres, le grand contournement de Rouen, je peux vous en passer. On ferme des petites lignes,
etc. Certains vous diront que sur autoroute, on consomme moins que sur les routes.
Il vaut mieux entretenir des petites routes et des lignes de chemin de fer que de construire des autoroutes qui sont inutiles, mais qui profitent à Vinci et à Eiffage.
Bruno Dive, c'est quoi la différence, vous, l'éditorialiste à Sud-Ouest? C'est les métropoles contre une forme de ruralité, contre cette France de la banane, comme disait Hervé Kempf, ou c'est autre chose?
Oui, non, de toute évidence, il y a un malaise rural des petites villes qui s'exprime à travers cette révolte qui est partie contre le prix du gasoil, les taxes sur le gasoil. On voit bien que les manifestations étaient souvent plus importantes. Je parle des premières manifestations, surtout du 17 novembre, parce que maintenant, là, aujourd'hui, depuis la dernière fois, ça ne veut plus dire grand-chose, mais les
depuis
premières
hier,
manifestations
vous voulez dire.
Depuis hier.
Ouais, c'était hier,
c'est vrai que ça paraît déjà, ça passe vite. Donc, on voit bien que proportionnellement, il y avait plus de manifestants dans des petites villes, chez nous, dans la région, à Tarbes, à Pau, qu'à Bordeaux, c'est tout à fait évident. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une problématique qui est très très confuse, avec des revendications contradictoires. C'est-à-dire, les gens disent, on est obligé de prendre notre voiture, ils demandent aussi à payer moins cher, donc on leur offre des centres commerciaux qui ont dévitalisé les centres-villes, par exemple, des petites villes. Et là, je pense que les maires, ça, il faut interpeller les maires aussi là-dessus.
Et dans ces centres commerciaux, vous interrogez les patrons de centres commerciaux et ils vous disent c'est les produits premier prix, les gens viennent chez nous parce que c'est moins cher.
Parce que c'est moins cher. Et ils y vont parce que l'essence est moins chère aussi. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. Et il y a effectivement une grande réflexion à avoir c'est un problème d'aménagement du territoire. Par contre, je ne pense pas, pour répondre à Hervé Kempf, que les riches, alors en tout cas en France, peut-être aux États-Unis, mais en France, les riches soient insensibles à la question écologique parce qu'ils sont riches.
Ils consomment beaucoup.
Ils émettent beaucoup de CO2.
Brigitte Boucher,
c'est très bien documenté. C'est très bien documenté.
Oui, d'accord. Mais enfin, les Parisiens, parce qu'il y a aujourd'hui le parisianisme, l'anti-parisianisme.
Non, c'est pas l'anti-parisienne, c'est les 1% les plus riches.
Les Parisiens n'ont pas de voiture. Et donc, je pense que ce sont des gens qui sont assez sensibles à la question écologique.
Brigitte Boucher. L'urgence écologique, je crois que tout le monde en a pris conscience aujourd'hui quand on voit ceux qui défilent pour le climat. On voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui y vont et ils ont pris conscience qu'effectivement il fallait lutter pour sauver notre planète. Il y a 48 000 morts par an prématurés à cause de la pollution. Il y a un rapport du GIEC qui est de plus en plus alarmant chaque année qui dit que, et on le constate, hein, que nos océans sont en train de fondre, que notre planète finalement se dégrade, qu'il y a des animaux qui pourraient totalement disparaître. Donc, si vous voulez, cette urgence-là, ils l'ont. Le seul problème, c'est que on leur dit on augmente la taxe carbone, et en réalité, on se rend compte que cet argent, il n'est pas fléché vers la transition énergétique et écologique, et qu'il n'y a que 19% finalement des hausses des taxes carbone qui ira véritablement à la transition écologique. Et puis, je pense que les Français, ils ont aussi découvert, en tout cas pour certains, que le prix de l'essence, en fait, pour 60%, c'était des taxes. Et donc, en fait, il y a une question du consentement à l'impôt qui s'est posé, parce qu'ils se disent finalement où va l'argent de nos impôts. Et c'est ce débat-là qui a ressurgi à l'occasion de cette crise.
Et on poursuivra notre débat dans quelques instants, mais d'abord 20h20, toute l'info, c'est avec Camille Revel.
Beaucoup d'hommes majeurs âgés de 30 à 40 ans venant souvent de province, insérés socialement, venus pour en découdre avec les forces de l'ordre. Voici le portrait d'une partie des 378 personnes placées en garde à vue après les violences dans la capitale en marge de la mobilisation des Gilets jaunes hier. Portrait dressé ce soir par le procureur de Paris. Les deux tiers des gardés à vue doivent être déférés, selon la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Édouard Philippe, lui, va recevoir des représentants des Gilets jaunes et les chefs des partis représentés au Parlement. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle dénonce des violences jamais vues depuis mai 68 dans les colonnes du journal Le Parisien. Elle réclame d'être associée au dispositif de sécurité. Conséquence de la mobilisation, des stations-service du Finistère et du Morbihan sont en rupture de stock total ou partiel à cause du blocage des dépôts pétroliers de Lorient et de Brest par des indépendants du BTP rejoints par des gilets jaunes. Mais pas de risque de rupture d'approvisionnement en Bretagne, rassure la préfecture. Les délégations de 200 pays réunis pour la COP24, la conférence climat, vient de s'ouvrir en Pologne à Katowice avec ce plaidoyer de l'ONU. Les conséquences du réchauffement climatique n'ont jamais été aussi graves. La communauté internationale doit faire beaucoup plus pour le combattre, demandent les Nations Unies.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Camille Revel nous le rappelait à l'instant, la COP24 débute à Katowice en Pologne. Pologne, gros consommateur d'ailleurs de charbon. Est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette COP24? Vous allez me le dire. Et écoutez d'abord Peter Italas, c'est le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale.
So far 2018 has been the warmest Jusqu'à présent, 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et comme les quatre dernières années ont battu tous les records, nous avons connu quatre des années les plus chaudes depuis 1850. Pour la communauté scientifique, il est urgent de mettre en œuvre l'accord de Paris.
Alors voilà pour le constat, on le répétera sans doute jamais suffisamment, mais vous l'avez entendu, 2018, année la plus chaude. Maintenant, est-ce que c'est dans des réunions comme ces COP, COP24, que les choses changent véritablement? C'est quoi votre opinion là-dessus, Hervé Kempf?
Oui, ça y contribue. Ça y contribue parce que ces réunions annuelles sont finalement le seul moment où la communauté internationale, l'ensemble des pays du monde, se retrouvent. Donc c'est une grande mise en scène, c'est un grand théâtre, mais qui est très important parce que chaque année, on parle de ce sujet absolument important. Est-ce que c'est utile? Oui, ça a quand même avancé dans, rappelons-nous, hein, la Convention sur le climat, elle date de 1992. Il y a eu le protocole de Kyoto en 1997. L'accord de Paris en 2015, peu à peu, c'est une thématique qui rentre dans l'agenda politique. Une deuxième chose, c'est que en soi, évidemment, ça ne suffit pas. Et la bonne nouvelle que a signalé Camille Revel dans son bulletin d'information, c'est qu'il y a aujourd'hui eu 50 000 personnes qui ont manifesté pour le climat en Belgique. Ouais. Il y en a eu quelques milliers l'autre jour en Australie, c'est des écoliers qui ont abandonné l'école pour aller manifester pour le climat. Il y a une manifestation pour le climat à Montréal il y a quelques semaines. Bruno Dive l'a rappelé, il va y avoir une grande marche pour le climat samedi 8 décembre. Donc s'il y a seulement les discussions entre diplomates, ça ne suffit pas, mais c'est utile. Mais il faut absolument qu'il y ait un soutien de la société qui dise on doit changer sur cette question.
Brigitte Boucher, embrassons-nous Folleville, la COP 24 est réunie, la planète est sauvée?
Alors la COP 24, quand on regarde bien, il y a une trentaine de chefs d'État qui sont attendus, et c'est vrai qu'à Paris, pour la COP 21, il y avait eu 150 chefs d'État, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, et on sent effectivement qu'il y a une démobilisation qui est assez étrange, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus, en fait le mouvement citoyen, lui, est de plus en plus fort, et en revanche, les chefs d'État se mobilisent un peu moins. C'est dommage aussi, mais bon, c'est compliqué en ce moment aussi en France. C'est dommage que le président de la République ne puisse pas s'y rendre, puisque c'est lui qui peut incarner ce leadership qui manque aujourd'hui sur le climat. C'est lui qui avait fait ce slogan Make Environment Great Again, en fait, finalement. Planet Great Again. Et donc, ce serait important que cette COP soit bien représentée et que les chefs d'État y aillent. Cela dit, est-ce que c'est bien qu'il y ait ces COP, évidemment, parce que ça permet de se mettre tous autour de la table et puis de se dire où en est la trajectoire, est-ce qu'on avance vers les objectifs, ça permet de définir ensemble des objectifs communs. Ensuite, cette COP-là, il y a des COP qui sont plus importantes que d'autres. Celle-ci, il y a des COP techniques. Ouais. Voilà, c'est COP intermédiaires et techniques. Et donc, ça permet de voir les moyens de parvenir finalement aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est quand même utile, bien sûr.
Bruno Bive.
Oui, il y a un symbole terrible. En fait, c'est Édouard Philippe là, qui devait se rendre à la COP de Pologne.
Et il préfère s'occuper des gilets jaunes.
Il annule sa participation. Je le comprends, il a raison. Hein.
Ah, moi, mais, je suis désolé. Bruno, je me permets d'être en désaccord avec vous.
Il a pas
je pense que c'est grave. Non, il aurait dû y aller. La France n'est quand même pas... Excusez-moi. La France n'est pas dans un état de tumulte où le Premier ministre...
Si, quand même.
Il peut s'abstenir une semaine. Il y a le président de la République qui est là.
En tout cas, on lui
aura... On laisse terminer, Bruno.
Oui, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Non, mais parce que si vous m'aviez laissé finir, vous avez vu qu'on... Là, pour le coup, on aurait peut-être été d'accord, parce que je trouve que le symbole est terrible, en effet. Je comprends, de son point de vue, d'avoir annulé sa participation, parce qu'on lui aurait reproché, mais le symbole est terrible. Ça veut dire ce qui s'est passé hier n'est quand même pas anodin. Donc, on peut pas dire le moindre événement, mais c'est un événement ponctuel, finalement, prend plus d'importance que cette conférence. C'est très symboliquement, c'est très fort et assez désespérant. Je voudrais ajouter juste une chose, c'est que les COP, l'autre mauvais signal qui est envoyé, c'est que les deux COP, celle-ci et la prochaine, qui va se tenir au Brésil, cette fois-ci en Pologne, ne sont pas organisées dans des pays qui sont très motivés, surtout avec le nouveau président brésilien, par les questions d'environnement. Et ça, c'est un mauvais signal.
Le Brésil envisage même
ils envisagent de se retirer.
Jean-Baptiste Marteau.
Non, ces COP, c'est vrai, depuis la COP 22 à Marrakech, elles servent surtout à mettre en œuvre ce qu'on a décidé à Paris. Et c'est là toute la question.
question, c'est qu'on n'est pas vraiment là en Pologne pour décider des prochaines mesures qu'il va falloir.
Alors vous, on vous entend mal, voilà, parce que vous, en fait, vous, pardon, vous appuyez sur les ordres, ce qui coupe votre micro automatiquement. Mais allez-y, maintenant, vous
entendez.
Très
entend. Bien, pardon. Voilà, pardon. Alors juste pour dire, cette COP, effectivement, elle n'est pas essentielle parce qu'on est surtout là pour mettre en œuvre ce qui a été décidé à Paris sur la COP 21. Et on est encore très très loin. Je pense que vous n'allez pas me contredire, Hervé, mais effectivement, il y a encore énormément de choses qui ont été décidées il y a 3 ans à Paris et qui sont encore sur une feuille de papier et qu'il faut alors mettre en œuvre dans les différents pays.
Et Hervé Kempf ne va pas vous contredire parce que c'est la pause des informés. On va laisser passer.
Il n'y a pas de raison de le contredire.
La météo, l'info. On se retrouve dans 5 petites minutes. Vous restez bien en place. Et puis, on va d'abord prendre des nouvelles de la circulation parce que les voitures roulent encore. Bonsoir Edouard Marié.
Bonsoir.
Alors je dis que ça circule encore, mais il y a pas mal de problèmes dus aux gilets jaunes.
Et oui, parce que de nombreuses routes sont encore fermées ou coupées à cette heure-ci. C'est le cas de l'autoroute A9, coupée au niveau de 7 dans les deux sens de circulation. Plusieurs échangeurs et péages sont concernés par des manifestations des gilets jaunes dans ce secteur. Même chose sur l'A7, des manifestants se trouvent toujours aux échangeurs de Montélimar, de Bolène. Les entrées sont interdites sur cette route à Orange Centre et Orange Sud. Sur la Nationale 113, elle est coupée également par la présence de gilets jaunes entre Saint-Martin-de-Crau et Arles. L'autoroute A6, quant à elle, a rouvert en direction de Lyon ce soir. Elle était coupée dans les deux sens de circulation hier entre Mâcon et la jonction avec l'A46 au nord de Lyon. À chaque fois, des déviations sont mises en place, mais je répète ce conseil, soyez prudents en arrivant à hauteur d'un péage parce que des piétons manifestants peuvent être présents.
Merci Edouard Marié. On se retrouve un peu plus tard dans le 21h minuit.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
Il faudra attendre le milieu de la semaine pour sortir des rails des perturbations qui traversent une grande partie du pays. Avantage de cet air océanique, il nous apporte la douceur avec des valeurs déjà confortables ce lundi matin et une moyenne de 15 degrés l'après-midi dans la moitié nord, 18 dans le sud-ouest et près de 20 degrés sur le bassin méditerranéen. L'inconvénient majeur, ce sont les pluies qui n'épargneront vraiment que les régions méditerranéennes et le piémont pyrénéen, alors qu'entre la Vendée, l'Aquitaine, le Jura et le nord des Alpes, les précipitations seront soutenues avec de la neige au-dessus de 2200 mètres sur les Savoies. Plus haut, du nord de la Loire au Grand Est, ce sont de fortes averses orageuses qui vont circuler une bonne partie de la journée, avec un vent de secteur ouest souvent très turbulent, jusqu'à 80 km à l'heure près de la Manche, entre le Var et la Corse, et sur le relief des Alpes, du Jura et des Vosges.
Jean-Michel Golinski, vous écoutez France Info, il est pile 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec Emmanuel Langlois.
L'exécutif cherche donc une porte de sortie dans la crise des gilets jaunes après les violences d'hier à Paris. Notamment, Matignon annonce que le Premier ministre Édouard Philippe recevra dès demain lundi, à la demande d'Emmanuel Macron, la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi les chefs de partis politiques et un collectif de gilets jaunes. Il y aura une réponse pénale extrêmement ferme, dit aussi Nicole Belloubet, invitée de France Info. La garde des Sceaux est revenue sur les chiffres de ces violences. 378 interpellations, les deux tiers de ces personnes seront déférés, annonce la ministre, qui est revenue également sur les profils divers des personnes arrêtées.
Les personnes qui sont déférées ne sont pas toutes des casseurs professionnels. Beaucoup sont des majeurs, la plupart sont des majeurs en fait. Si je reprends les chiffres de Paris, il n'y a qu'une trentaine de mineurs. Donc la plupart sont des majeurs qui parfois viennent de province, parfois sont des personnes insérées socialement, et qui sont venus à Paris avec des objets pour certains d'entre eux. Je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, mais pour ceux qui ont été interpellés, avec des objets, des pots de peinture de 5 kilos, des objets pour faire le coup de force contre les forces de l'ordre. Ça n'est pas possible.
Nicole Belloubet, ce soir sur France Info. Et puis, conséquence de ce mouvement des gilets jaunes, des stations-service sont à sec en Bretagne, dans le Finistère et le Morbihan, en rupture totale ou partielle de carburant. Conséquence du blocage des dépôts pétroliers de Lorient et de Brest par des indépendants du bâtiment et travaux publics qui ont été rejoints par des gilets jaunes. La préfecture de Bretagne assure toutefois qu'il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement dans la région. Dans l'actualité, Malte qui accepte de recevoir provisoirement 11 migrants africains Américains en état de déshydratation. Ils avaient été secourus à la fin du mois dernier par un bateau de pêche espagnol et ils devraient être ensuite transférés en Espagne après un examen médical. L'Euro 2020 de football et ce tirage au sort plutôt favorable pour la France. Le mot est faible. Les Bleus évitent en effet l'Allemagne et se retrouvent au sein d'un groupe à leur portée avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre pour ce qui est des qualifications. Et puis l'UEFA a officialisé ce soir la création d'une troisième Coupe d'Europe de foot en plus de la Ligue des Champions et de l'Europa League, une compétition de 32 clubs destinée aux petits pays. Elle sera lancée dès la saison 2021-22 et le vainqueur de cette nouvelle compétition sera qualifié pour l'édition suivante de l'Europa League. C'est ce que précisent les instances du foot européen. Un mot de rugby et de top 14. Bordeaux-Bègles remporte son premier succès à l'extérieur de la saison. Le premier match de son histoire aussi à Perpignan. Victoire des Girondins 22-11. L'USAP de son côté établit un nouveau record de défaites en championnat. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, ça continue.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Merci mon cher Emmanuel Langlois. Le jour d'après et le jour J, on en débat ce soir dans les informés. Le jour J, début de la COP24, ce nouveau sommet sur le climat. Le jour d'après, ces scènes de violence, évidemment en marge des manifestations des Gilets jaunes. Et on en débat avec Jean-Baptiste Marteau du service politique de France Télé, Brigitte Boucher, journaliste politique à LCP, Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest, et Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter. Jour d'après, vous disais-je, ce matin, Emmanuel Macron, à peine rentré du G20 en Argentine, s'est rendu d'abord à l'Arc de Triomphe, puis avenue Kléber pour mesurer l'étendue des dégâts. Voilà comment il a été accueilli. Bon, alors, il ne s'agit évidemment pas d'un sondage, ni encore moins d'une réalité comptable, mais simplement de Parisiens, des beaux quartiers, qui eut le président de la République.
Non, c'est pas vrai, ça, Olivier.
Alors, expliquez-moi, alors, Bruno Dive.
Non, il a d'abord été, si j'ai écouté vos reportages sur votre, il a d'abord été plutôt bien accueilli par les habitants du quartier. Alors, faut pas trop le dire, parce qu'il va encore passer pour le président des riches, mais, ouais. Et après, 20 minutes après qu'il soit arrivé, il a été hué par un petit groupe de gens dont on peut quand
et
même
qui
penser
d'où, qu'ils venaient de la banlieue de Bordeaux.
J'en sais rien d'où ils venaient, mais on peut penser que c'était pas des forcément évidemment des admirateurs d'Emmanuel Macron. Donc est-ce que c'était des insoumis, des gilets jaunes, j'en sais rien, mais ils sont arrivés là quand même pas par hasard. Donc il faut pas penser que Emmanuel, je suis pas là pour le défendre, hein, mais il est partout, il passe.
Mais vous faites bien, voilà. Vous avez parfaitement le droit de vous exprimer et continuer. Mais moi ma question c'est est-ce que derrière
beaucoup de critiques à faire par ailleurs.
Si je peux me permettre de terminer quand même une de mes questions. Voilà. Est-ce que derrière la question des Gilets jaunes, il n'y a pas un problème Macron, un problème de perception du président de la République, Jean-Baptiste Marteau ?
Il y a en tout cas, à travers cette crise qui est complètement inédite, effectivement Emmanuel Macron qui apparaît comme presque un... C'est complètement irrationnel, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tout un tas de manifestants, dès qu'ils voient Emmanuel Macron, dès qu'ils entendent son nom, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est de toute façon Hollande démission, Macron démission, Macron président des riches.
Sigmund sort de ce corps.
Et le risque, effectivement, beaucoup le disent à l'Élysée, c'est que maintenant, tout au long de son quinquennat, dès qu'il y aura la moindre réforme un petit peu difficile, et il y a la réforme des retraites qui est prévue notamment, eh bien, cette contestation se transforme de nouveau et que des gilets jaunes de nouveau apparaissent pour dire non, Emmanuel Macron, on veut pas de cette réforme. Donc, effectivement, ça devient presque irrationnel. Certains comparent avec la détestation que pouvait engendrer Nicolas Sarkozy chez une partie des Français. Il y a un peu de ça. Maintenant, il fallait qu'il revienne, en tout cas, de manière très symbolique aujourd'hui, à peine descendu de l'avion, à Paris, pour montrer, après les images quand même qui ont fait le tour du monde hier de Paris à feu et à sang, montrer que l'autorité de l'État était au moins, symboliquement, revenue et que voilà, l'État était incarné à travers le président de la République dans les rues de Paris.
Brigitte Boucher, il y a un problème Macron spécifique ou est-ce que finalement c'est peut-être tout à chaque fois pareil avec avec tous les présidents, avec Sarkozy démission, avec Hollande démission.
D'abord, je voudrais dire que je partage l'avis de Bruno Dive, parce que c'est vrai qu'il y avait autant des applaudissements que des Macron démission. Donc il y avait, on a entendu les deux dans la rue aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que c'est autour de l'image du président que se cristallisent aujourd'hui les mécontentements, autant l'image que la politique finalement. Et c'est vrai que Emmanuel Macron incarne une sorte de verticalité du pouvoir qui est rejetée aujourd'hui, parce que c'est vrai que pendant un an, il n'y a quasiment pas eu de contre-pouvoir. On a l'impression d'avoir un président un peu tout-puissant et d'être une sorte de monarchie présidentielle. Aujourd'hui, la crise, elle est sociale, elle est territoriale, elle est politique, mais elle est surtout démocratique. Et il y a en fait une vraie remise en cause et remise en question des institutions, de la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et quand on regarde les revendications des Gilets jaunes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de revendications qui sont d'ordre institutionnel, alors que ce soit la dissolution de l'Assemblée nationale, le Sénat, la suppression du Sénat ou autre, mais il y a aussi des référendums réguliers qui sont demandés, la proportionnelle aux législatives, et ça, ce sont par exemple deux mesures qui sont demandées par le collectif Gilets jaunes dans la tribune du JDD aujourd'hui. Donc c'est aussi à cette crise-là que devra répondre le président de la République.
Et Hervé Kempf, le problème soulevé par les Gilets jaunes, et on l'a évoqué déjà, c'est un problème qui est profond, un problème de déclassement, l'idée d'une fracture entre une France rurale et les métropoles. Est-ce que finalement Emmanuel Macron ne personnifie pas cette fracture ?
Si, je suis au demeurant d'accord avec l'analyse de mes camarades de studio. oui, il le personnifie, c'est le président des riches, comme on l'avait dit pour M. Sarkozy, c'est le président des riches pour les mesures fiscales qu'on a évoquées tout à l'heure, ancien banquier de la banque Rothschild, une attitude très méprisante aussi. Et ça coûte beaucoup. La dernière en date dont je me souviens, c'est pour trouver un boulot, traverser la rue. Tout le monde qui a cherché un boulot sait que ça se passe pas comme ça. Donc oui, il est vraiment devenu le symbole d'une déchirure entre la masse populaire et les élites ou les classes dirigeantes. Et là, il y a une rupture du pacte démocratique qui est en jeu. Parce qu'en fait, le pacte démocratique, c'est on accepte l'inégalité, on accepte qu'il y ait des riches, des puissants, etc. Mais il faut qu'il y ait une sorte d'homogénéité de la société. Et ce que fait M. Macron, et c'est pas seulement une question de personne, c'est ceux qui l'entourent, c'est son gouvernement, c'est ceux qui le soutiennent, sont en distance et en mépris avec des préoccupations très simples et très quotidiennes de beaucoup de gens.
Bruno Dive, le pacte démocratique est en danger ?
Possiblement, oui, à moyen terme, s'il ne réagit pas très vite, il faut faire très attention. En effet, il y a un rejet qui se cristallise sur la personne d'Emmanuel Macron, un peu de manière un peu irrationnelle. Alors, il l'a en effet un peu cherché par un nombre de petites provocations, de petites phrases qu'il a égrenées depuis 6 ou 8 mois et dont on voit qu'elles ressortent aujourd'hui quand on interviewe les manifestants.
Et à votre avis, elles étaient voulues, ces provocations
Je pense qu'elles émanaient de quelqu'un qui était très sûr de lui et en plus et qui était assez sûr de son fait et qui ne serait pas contesté. Donc, qui arrivait en disant, voyez, je vais réformer et les Gaulois sont un peu réfractaires aux réformes, mais je vais y arriver. Et en plus, il le disait souvent à l'étranger. Ce qui est encore plus mal perçu. Donc c'est tout ça aussi qui paye aujourd'hui. Mais donc on a aujourd'hui un pacte démocratique qui est en danger. On a une opposition, d'ailleurs des leaders de l'opposition, qui se comportent de manière, je trouve, assez irresponsable. On y reviendra peut-être. Mais je trouve que, en tout cas, le pouvoir, et il ne l'a pas fait aujourd'hui, devrait réagir très rapidement et répondre à ces revendications d'une manière ou d'une autre, à ces revendications dont parlait Brigitte Boucher, qui sont assez intéressantes.
Justement, comment l'exécutif peut réagir ? Peut-il encore reprendre la main ? Eh bien, on en débat tout cela dans 2 petites minutes, juste après l'info, puisqu'il est 20h40, Camille Revel.
Édouard Philippe doit recevoir à compter demain les chefs de partis politiques et une délégation de Gilets jaunes. C'est une demande d'Emmanuel Macron. Après la journée de violence hier en marge de la mobilisation, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Jacqueline Mourot, dit avoir été contactée par le cabinet du Premier ministre, mais elle ne discutera sur telle que si la hausse des taxes sur le carburant est annulée. La réponse judiciaire à ces violences, 378 personnes placées en garde à vue à Paris, les 2/3 doivent être présentées à la justice. Certains seront jugés en comparution immédiate dès demain, dit la garde des Sceaux. Nicole Belloubet. La préfecture de Mayenne, elle annonce qu'elle va déposer plainte pour des dégradations en marge de la mobilisation hier, des jets de peinture sur la façade du bâtiment et des tags anti-Macron selon France Bleu Mayenne. En Israël, Benjamin Netanyahou lui dit être cible d'une chasse à l'homme. La police recommande l'inculpation du Premier ministre israélien et de sa femme dans une troisième affaire de corruption. Le couple est soupçonné d'avoir offert des faveurs gouvernementales à un groupe de presse en contrepartie d'une couverture favorable. C'est le procureur général qui décidera s'il engage ou pas des poursuites. La 11e journée du top 14 de rugby Toulouse bat le Stade français, score final 49-20. Et puis les Françaises se rattrapent pour leur deuxième match de l'Euro féminin de handball. Les Bleus battent la Slovénie 30-21 à Nancy.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et maintenant, comment le gouvernement, comment l'exécutif peut s'en sortir? Alors demain, vous l'avez entendu, hein, Édouard Philippe va multiplier les entrevues, recevoir la maire de Paris, puis des représentants des Gilets jaunes. De leur côté, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont eu chacun la même petite idée. Écoutez.
Il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'il y ait de nouvelles élections à la proportionnelle. Je ne vois pas, au niveau où nous sommes, de la gravité de cette crise politique, comment sortir par le haut, à part en retournant aux urnes.
Il n'y a qu'une manière de le trancher, c'est le vote. Alors, ça s'appelle la dissolution, voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Alors, il faut qu'il se dépêche de la dire. Parce que dans une démocratie, la clé de la vie en commun, c'est ça. On vote, puis après on s'incline devant le résultat du vote. Que voulez-vous faire?
Alors voilà, une dissolution. Ah ouais. À votre avis, Jean-Baptiste Marteau, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, rêve ou ça pourrait être une solution de sortie?
Déjà, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, comme toutes les oppositions, ils sont face au même dilemme que la majorité. C'est comment on reparle à ces gens, comment on arrive à remettre tout le monde autour de la table et à dialoguer.
Parce on va dire que c'est plus facile pour Marine Le Pen que pour Édouard Philippe en ce moment.
Effectivement. Mais ils ont le même problème, c'est qu'ils sont face à un mouvement qui ne veut pas des politiques, qui ne veut pas de représentativité. Et donc, effectivement, il veut à la fois pas récupérer le mouvement, mais quand même essayer de pouvoir reprendre leur rôle d'opposant. Donc, effectivement, la dissolution, c'est la méthode, évidente. Alors, effectivement, ils font tous référence à mai 68, le général de Gaulle avait dissous, et derrière, il reprend la majorité, avec en plus une majorité encore beaucoup plus large. Le scénario est quand même difficilement duplicable. D'abord parce que Emmanuel Macron, il n'a pas intérêt à aller jusque-là, parce que là, c'est vraiment la dernière cartouche, il y en a quand même d'autres avant. Et puis, effectivement, on sait très bien qu'Emmanuel Macron, il a été élu sur une vague, qu'aujourd'hui, cette vague, elle serait peut-être pas la même. Mais en face, vous avez quoi? Vous avez quelles oppositions? Et dans quel état? Pour quelles propositions? C'est pas du tout évident. Regardez aujourd'hui la situation à gauche comme à droite. Est-ce que il y a une évidence qui se distingue pour le choix des Français. Et est-ce que cette réponse doit forcément passer par les urnes? Rien n'est moins sûr. Il faut faire très attention avant de se lancer dans ce type d'analyse.
Brigitte Boucher, vous venez d'entendre Jean-Baptiste Marteau. La dissolution, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
La dissolution, c'est possible, mais c'est l'arme institutionnelle ultime. Et je ne pense pas qu'on soit là aujourd'hui dans la situation du pays au point de faire la dissolution.
Mais
je pense pas
qu'ils
ce soit dans les intérêts d'Emmanuel Macron.
Ils
le disent parce qu'ils veulent récupérer le pouvoir, tout simplement, et qu'ils veulent des élections anticipées, et que voilà. Mais je suis pas sûre qu'ils soient tout à fait prêts à récupérer le pouvoir. Ça me semble assez irresponsable dans l'état de l'opposition aujourd'hui et de toutes les oppositions, pas seulement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il y a aussi une sorte de récupération politique en essayant d'essayer de capter en fait ces gilets jaunes qui et Marine Le Pen a peut-être un coup à jouer, parce qu'aujourd'hui il y a en grande partie un mouvement apolitique avec des personnes qui ne votent pas, mais on voit un mouvement qui se radicalise et qui, à mon avis, peut se rapprocher des revendications du Front National. Il y a 98% des sympathisants du Rassemblement National qui soutiennent ce mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a une forte adhésion des partisans de Marine Le Pen. Il y a d'autres solutions, en tout cas pour le président de la République. Là, aujourd'hui, il propose un dialogue, c'est-à-dire qu'il a déplacé un peu les choses et il a proposé une sorte de dialogue avec les partis d'opposition, ce qu'avait d'ailleurs demandé Marine Le Pen. Ce qui pourrait être intéressant, c'est essayer de trouver une forme d'union nationale autour de l'environnement et du carbone. Parce que finalement, quand on regarde à gauche et à droite, tout le monde est pour faire cette transition énergétique. effectivement, l'objectif est le même. Après, il y a façon et façon d'y parvenir, mais je crois que cette urgence écologique...
Et on en revient à l'urgence écologique, ce qui fait extrêmement plaisir à Hervé Kempf. On va
trouver une union nationale. Une fois de plus...
Hervé Kempf, comment vous expliquez...
Un mot, pardonnez-moi, Olivier. Non, l'urgence écologique, ça ne me fait pas plaisir. C'est simplement le constat qu'on a rappelé, par exemple, avec le rapport du GIEC.
L'union nationale de l'urgence écologique
J'aimerais beaucoup diriger le quotidien des sports, ou le quotidien de la politique, ou le quotidien de la mosaïque byzantine, mais l'écologie est vraiment une gravité très importante. Mais voilà, du coup, quelle est votre question, Olivier ?
Ma question, c'est, est-ce que vous n'êtes pas surpris, finalement, par ce rapprochement, en tout cas de façade, ou peut-être même dans les défilés des Gilets jaunes, entre la France insoumise d'un côté, et puis le Rassemblement national de l'autre ?
Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut analyser dans le long terme, et une fois de plus, on revient à cette question de pacte démocratique, c'est les taux d'abstention, qui, dans tous les pays occidentaux, en tout cas en la France, ont monté régulièrement depuis maintenant 30 ans. La dernière élection présidentielle a eu une participation relativement faible, même si elle était plus importante que les autres élections, et l'Assemblée législative avait un taux vraiment extrêmement faible. Donc par exemple, tous les députés sont très mal élus parce qu'ils représentent peu du corps électoral. Et là, vous avez une analyse, c'est que, à tort ou à raison, un certain nombre de classes populaires, de petites classes moyennes, de gens ne croient plus que la politique va les représenter et ne votent plus. Donc on a des régimes et des élus qui très souvent, et on peut pas leur reprocher, ils font la politique de leurs électeurs. Les électeurs, c'est plutôt les classes moyennes supérieures, et donc ils vont plutôt s'adresser à cette partie de la population et donc faire une politique qui correspond à cette partie de la population. Donc avant de poser la question, enfin je réponds à votre question, mais il y a effectivement une sorte de convergence chez ces deux électorats, pour autant que je puisse en juger, c'est qu'effectivement c'est des électorats qui en partie se sentent non représentés, non un peu abandonnés, et vont être allés vers des positions qui sont perçues comme radicales et très différentes du discours dominant habituel.
Bruno dit, c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Donc d'un côté, les Français qui ne sont plus représentés par la politique et qui manifestent, et d'autre côté, des partis politiques un peu seuls qui essayent de trouver une solution pour s'en sortir, quoi.
Oui, et un mouvement des Gilets jaunes dont on voit bien qu'il a du mal à s'organiser, à trouver un débouché politique qui remet en cause ses porte-paroles en permanence. Donc là, ce matin, on en a 8 là qui ont signé cette tribune dans le journal du dimanche. Mais en effet, on voit bien qu'il y a ce climat déliquescent. Moi, je suis frappé quand même par le fait que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon disent la même chose, ont la même revendication. Un peu d'ailleurs. Un peu éculé, un peu facile, un peu attendu.
C'est le rapprochement des extrêmes ?
Oui, c'est le rapprochement des extrêmes, des électorats peut-être. Mais c'est une espèce de tentation permanente qu'ont les extrêmes depuis le début de cette mandature de contester la légitimité d'Emmanuel Macron, de l'Assemblée législative. Alors c'est vrai, élu avec un faible taux de participation, mais qui est néanmoins légitime. Moi, je suis très choqué aussi de voir François Ruffin, député, élu de la République, de la Nation, aller sous les fenêtres de l'Élysée demander la démission d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas le rôle d'un député. Et je pense, pour rebondir sur ce que disait Brigitte, qu'il y a beaucoup de... Peut-être que la dissolution sera une... Si la crise continue, sera le moyen de s'en sortir d'ici 3 semaines, 1 mois. Alors, on sera à Noël, je ne sais pas.
Dans 3 semaines, on sera à Noël.
On reviendra pour en parler. Mais avant, il y a quand même tout un tas de solutions. Et notamment le remaniement, alors le remaniement qui peut aller jusqu'au Premier ministre, mais aussi l'élargissement de la base politique. Je pense qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron élargisse la base de son gouvernement, mette des gens un peu plus solides, des poids lourds. Je me disais hier en regardant les émeutes, il était question, vous vous souvenez, que Frédéric Pechnard, Sarkozy d'une part, directeur de la police nationale autrefois, d'autre part,
ministre de l'Intérieur.
Je me dis finalement ça serait pas mal d'avoir quelqu'un comme ça. C'est un simple exemple.
C'est pas encore Noël, ce sont les informés. Il est 20h50. Le cadeau, c'est l'info avec Camille Revel.
Christophe Castaner et Laurent Nunez priaient de s'expliquer devant les sénateurs après-demain, après les violences en marge de la mobilisation des Gilets jaunes hier à Paris. Le ministre et secrétaire d'État à l'Intérieur vont être entendus par la commission des lois du Sénat. 249 feux recensés hier à Paris et des violences d'une gravité sans précédent pour le préfet de police. 378 personnes sont en garde à vue, dont une trentaine de mineurs. Emmanuel Macron lui a organisé à la mi-journée une réunion de crise à l'Élysée en présence notamment d'Édouard Philippe. Le Premier ministre doit recevoir à compter de demain des représentants des Gilets jaunes et les chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, plaide pour une dissolution de l'Assemblée. Dissolution également suggérée par la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen. Le président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, lui réclame toujours l'organisation d'un référendum sur la fiscalité verte. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lui demande des états généraux sur le pouvoir d'achat. Plus de 65 000 manifestants dans les rues de Bruxelles aujourd'hui pour une marche pour le climat alors que la COP24 vient de s'ouvrir en Pologne. Et puis le foot et cette annonce de l'UEFA ce soir, elle officialise la création d'une troisième Coupe d'Europe des clubs d'ici 2021. Elle sera destinée aux petits pays.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Bon, vous voulez tous parler, ben vous allez avoir la parole, mais le dernier point sur lequel j'aimerais vous entendre est pas le plus simple, hein, c'est sur l'avenir de ce mouvement de contestation. Alors vous allez réfléchir quelques secondes, écoutez d'abord le témoignage de Christophe Charlençon, c'est l'un de ses porte-parole des Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes vont se transformer certainement en mouvement politique, hein. Il faut bien c'est la demande de la base, puisque les partis aujourd'hui ont failli, ne nous représentent plus. C'est d'être présent au niveau des élections européennes.
Jean-Baptiste Marteau, je voulais faire une moue invraisemblable.
C'est-à-dire que c'est peut-être son rêve, mais on en est très 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 loin. C'est un mouvement qui n'arrive même pas à amener des représentants autour de la table quand ils sont conviés à venir discuter par le Premier ministre. J'étais vendredi dans la cour de Matignon, c'était surréaliste. On a un pauvre gilet jaune qui est arrivé avec une demi-heure de retard, un autre qui a voulu passer par une porte dérobée parce qu'il reçoit des menaces. Si jamais ils viennent discuter avec le pouvoir, ils sont traités, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, de tous les noms, de traîtres à la cause,
collabos,
etc. Et ils ne sont pas jugés représentatifs par ce mouvement. C'est toute la difficulté du pouvoir. Édouard Philippe, comme Emmanuel Macron, toutes les équipes nous le confirment, ils aimeraient bien pouvoir parler, arriver, ils ne seront évidemment pas d'accord tout de suite, mais au moins se mettre autour d'une table, et apaiser les choses et pouvoir mettre concrètement des revendications sur la table. Aujourd'hui, c'est impossible parce que c'est un mouvement qui, évidemment, ne veut pas être représenté, se fiche des camps intermédiaires des élus locaux et donc même du mal à désigner des porte-paroles qui commencent déjà entre eux à désigner, allez, même une dizaine de porte-parole, et peut-être que déjà on pourra commencer à parler d'un mouvement unifié. Pour l'instant, c'est un mouvement protéiforme avec des revendications qui sont parfois totalement contradictoires les unes des autres.
Bruno Dive, hein, Emmanuel Macron voulait plus de corps intermédiaire, là il est servi, hein.
Ah oui, là, oui, c'est ça aussi qui paye aujourd'hui, hein. Il a négligé la proposition de Laurent Berger, enfin c'est Édouard Philippe surtout qui a négligé la proposition de Laurent Berger de réunir une grande conférence sociale environnementale il y a 15 jours, qui aurait peut-être permis d'un peu de désamorcer les choses. Il a négligé les élus et les médias aussi beaucoup, et tout ça qui lui permettrait quand même de faire passer son message de manière peut-être un peu plus subtile que ses phrases à l'emporte-pièce. Donc tout ça, il le paye aujourd'hui. Mais moi je pense qu'ils vont être, le pouvoir va être obligé, en fait il va falloir qu'il fasse du Macron, c'est-à-dire du en même temps cette semaine, et il va falloir qu'il réagisse très vite, c'est-à-dire en même temps la sécurité, très 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 ferme, être très très ferme sur la sécurité. Je vois qu'ils veulent pas d'état d'urgence, mais je pense qu'on annonce une manifestation pour samedi prochain qui risque d'être encore pire que celle de samedi dernier. Il faut interdire cette manifestation. Il faut pas qu'elle ait lieu, et donc il faut des mesures absolument
compliqué d'interdire une manifestation.
Il faut des mesures draconiennes, et même l'état d'urgence n'y suffira pas. Mais de l'autre côté,
vous voulez l'armée là, vous voulez les tanks, qu'est-ce que vous voulez dire?
Pourquoi pas?
Mais soyons sérieux quand même. Vous diriez pourquoi pas les tanks? Je pose une question à Bruno Dive, est-ce que vous êtes d'accord que face à ce qui se passe, il y ait des tanks?
Ce que je vous réponds, c'est que la police aujourd'hui risque d'être débordée. Et donc, qu'on a des émeutiers de plus en plus violents, avec des habitants qui risquent d'être agressés jusque dans leurs propres immeubles.
Si ça, c'est ça, ça que vous voulez. Non, c'est pas ça que je veux, mais en tout cas, état dans lequel se prétend démocratique, où on envisage sérieusement que l'armée soit pour le maintien de l'ordre, pose un vrai problème.
C'est pas à moi de dire au pouvoir ce qu'il doit faire, mais j'aimerais finir ma phrase, parce qu'à chaque fois je suis interrompu.
Donc,
il faut une réponse très fermement sécuritaire, mais de l'autre côté, il faut une réponse, un geste fort pour répondre aux revendications, et là je suis sûr qu'Hervé Kempf va être content, des gilets jaunes. Et notamment, j'ai entendu ce gel de la taxe carbone. Alors c'est pas très écologique en effet, mais c'est ça le paradoxe. Il faut qu'il y ait au moins cette mesure pour faire décroître la tension. Et là, dans ces cas-là, il y aura beaucoup moins de monde aux manifestations. Boucher. il y aura beaucoup moins de monde aux manifestations de samedi prochain.
Rien Boucher, vous avez une solution?
Je peux esquisser une réponse à Bruno Dib, mais c'est vrai que le porte-parole du gouvernement s'est encore expliqué aujourd'hui pour dire qu'il n'y aurait pas de remise en cause de cette hausse des taxes. Donc on est dans une impasse avec un gouvernement qui campe sur ses positions et des gilets jaunes qui se radicalisent. Je ne sais même pas si on peut encore les appeler les gilets jaunes, parce qu'il y avait visiblement beaucoup de personnes qui étaient infiltrées et qui ont enfilé leurs gilets jaunes, alors qu'au fond c'était des casseurs, ceux qui étaient en tout cas place de l'Étoile. Ce qui est sûr, c'est que
des gilets jaunes violents aussi.
Oui, des gilets jaunes qui se sont radicalisés, c'est certain, mais qui ne portent pas, à mon avis, correctement la cause qu'ils voudraient défendre, et une cause qui est noble, celle de dire voilà, j'ai pas les moyens aujourd'hui de vivre décemment de mon travail. Quand on dit au gouvernement, il faut répondre à qu'est-ce qu'on répond, mais on répond à qui et on répond à quoi déjà, parce que il y a effectivement un problème de représentativité de ces gilets jaunes, ils ne se reconnaissent pas entre eux. C'est vrai qu'on pouvait parler de fiasco l'autre jour à Matignon, mais fiasco, pardon, du côté des gilets jaunes qui sont incapables finalement d'être représentés correctement, qui refusaient d'être filmés et du coup ont quitté la salle, qui sont arrivés avec une demi-heure de retard à Matignon, et puis répondent quoi à des revendications très très disparates où finalement on ne sait plus très bien ce qu'ils veulent. Aujourd'hui on est en tout cas dans une impasse, une forme de populisme, mais qui est peut-être née aussi de cette élection d'Emmanuel Macron, cette forme de dégagisme aujourd'hui, et on se retrouve avec un président qui est face au peuple, sans corps intermédiaires, sans syndicats, sans élus, pour faire tampon.
Et avec F, le mot de la fin, très rapidement.
Très rapidement, une idée, ce qu'expriment les gilets jaunes est en fait assez cohérent, même si c'est mal formulé, c'est le rejet du néolibéralisme absolu qui est mis en œuvre sous le nom de réforme par le régime de M. Macron.
Eh bien, c'est dommage que ça nous ferait un super début de débat, ce sera notre mot de la fin. Merci en tout cas à vous quatre, parce que, vous savez, les meilleures choses ont une fin, les informer également, mais la bonne nouvelle, c'est que l'info continue.